Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 17-19, le magazine Tilayla Djebor, très heureuse de vous retrouver dans votre rendez-vous de l'actualité. Deux heures pour décrypter et analyser les dernières informations nationales et internationales en compagnie de nos collègues journalistes de la rédaction. Au programme, le reportage du jour avec Sami Alloun nous emmène à Béjaïa, dans la commune de Oued Amizour. Un gisement de 234 hectares recèle 33 millions de tonnes de minerais. Son exploitation, prévue sur 19 ans, devrait générer plusieurs centaines d'emplois directs et indirects. Et l'actualité économique, c'est en compagnie de Nabila Hussein, focus sur la trajectoire budgétaire du pays avec le projet de loi de finances 2026. Et dans l'instant santé, nous parlerons des investissements de l'Algérie pour améliorer la prise en charge des patients. Hassan Chemesh s'est rendu au CHU de Bab El Oued pour suivre le travail de l'équipe de service de réanimation. Sur la scène internationale, Zoom sur le monde revient sur la situation au Maroc où tensions sociales et politiques se renforcent. Sofia Boukercha a interrogé Mohamed El Batiwi, académicien et opposant, pour analyser ces dynamiques et leurs impacts sur le régime. Et coup de projecteur en deuxième partie de ce magazine sur la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel au Palais de la Culture Moufdi Zakaria du 9 au 15 novembre pour mettre en valeur la richesse de l'artisanat algérien. Et tout de suite, on passe au reportage du jour.
Le reportage du jour.
Et le gisement d'Oued Amizour, situé dans la wilaya de Béjaïa, couvre une superficie de 234 hectares. Les réserves exploitables avoisinent les 33 millions de tonnes de minerais, avec une exploitation planifiée pour durer environ 19 ans.
De nombreux spécialistes le considèrent comme un gisement de classe mondiale qui a été découvert en 1989 par des entreprises publiques dans le cadre de projets d'exploration et de recherche minière. Ce gisement, situé entre la commune de Tala Hamza et Amizour, est constitué essentiellement de deux substances métalliques, le zinc et le plomb. Dr Issaad Mouloud, spécialiste en géologie minière et maître de conférences au département de géologie à l'USTHB.
L'ensemble des travaux d'exploration réalisés ont permis de proposer une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité explique en détail le plan de développement, le traitement et la gestion de l'environnement dans le cadre de ce projet. Cette étude de faisabilité a été soumise à étude auprès des instances gouvernementales en charge des projets miniers, en charge de l'environnement. Elle a connu des modifications proposées afin de changer complètement la méthode d'exploitation pour en limiter les impacts environnementaux, mais aussi pour proposer des systèmes de gestion des déchets qui sont beaucoup moins impactants pour l'environnement. Et c'est cette deuxième version qui a été validée par le gouvernement récemment pour lancer les travaux d'exploitation de ce gisement.
Un projet d'envergure qui permettra, par la même occasion, de générer plusieurs centaines d'emplois directs.
Il y aura à peu près environ 780 employés dans le site. Une très grande majorité va correspondre à de la main-d'œuvre locale. Donc on aura des ingénieurs en traitement du minerai, des ingénieurs géologues, des ingénieurs en charge des travaux d'extraction, des métallurgistes, mais aussi différents métiers comme la maintenance mécanique, la maintenance industrielle. Donc un large panel de métiers qui seront disponibles et qui sont déjà présents dans les formations des universités. Comme par exemple, juste à côté du lieu où il y aura le projet, l'université de Béjaïa, qui forme déjà des ingénieurs en génie minier, en traitement et en valorisation des matières premières minérales.
L'exploration du gisement de Oued Amizour est planifiée pour durer environ 19 ans, avec des réserves exploitables qui avoisinent les 34 millions de tonnes. Maryam Touati, directrice générale de BZL, Béjaïa for Zinc and Lead, anciennement connue sous le nom de WMZ, Western Mediterranean Zinc.
Le projet de la mine d'exploitation du gisement de zinc et plomb est situé entre les deux communes de Tala Hamza et Amizour, situées dans la wilaya de Béjaïa. Donc, c'est une mine souterraine qui s'étendra sur 19 ans. Donc, les ressources géologiques sont estimées à 54 millions de tonnes et puis les réserves exploitables de 34 millions de tonnes. Pour une capacité de production de 2 millions de tonnes par an, donc 170 000 tonnes zinc et 30 000 de plomb, je pense que c'est l'un des projets stratégiques en ce moment minier du pays.
Une opération d'indemnisation l'évacuation des citoyens situés dans le périmètre concerné par la mine est progressivement en cours.
Le processus d'indemnisation des propriétaires concernés est en cours sous la supervision du groupe Sonarem qui a entrepris plusieurs démarches en coordination et collaboration avec les autorités locales afin d'assurer le bon déroulement du processus d'indemnisation des citoyens concernés et la libération des terrains situés dans le périmètre minier. Le périmètre, pour rappel, est de 234 hectares. Donc c'est précisément cette procédure d'indemnisation qui explique un peu le décalage observé dans le lancement effectif des travaux.
Le projet de mine de zinc et de plomb de Wedemizur va à son tour contribuer à la création d'autres projets complémentaires pour valoriser et optimiser davantage son exploitation. Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier.
Le projet de zinc de Wedemizur va donner certainement une impulsion économique à la localité, à la région, et permettra un développement rapide des territoires du moment qu'il entraînera certainement d'autres secteurs d'activité dans la logique et dans le processus de développement sur lequel tablent les pouvoirs publics. Une matière première importante dans la réalisation utilisée par différents secteurs d'activité, dont l'industrie principalement, mais aussi l'agriculture.
L'entrée en exploitation de la mine de zinc et de plomb de Wedemizur va permettre à la fois de renforcer l'économie locale tout en tirant profit des potentialités stratégiques de la région.
C'était le reportage du jour avec Sami Alloun et on passe tout de suite au journal économique de Nabila Hussein.
Économie.
On ouvre cette édition avec la trajectoire budgétaire du pays. Le projet de loi de finances 2026 est officiellement soumis à l'examen des députés.
Oui, et la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale a introduit plusieurs amendements au projet de loi de finances 2026. Ces amendements touchent directement la structure du budget. Ils portent sur des ajustements fiscaux, des exonérations ciblées, le renforcement des dispositifs d'accompagnement des jeunes investisseurs. Sur le plan économique, cela signifie un soutien plus important à l'investissement productif et à la création d'activités tout en cherchant à alléger certaines charges fiscales. La commission a également insisté sur l'amélioration du rendement fiscal et la maîtrise du déficit dans un contexte où l'État veut augmenter l'effort d'investissement public. Les débats devraient désormais porter sur l'équilibre entre soutien à la croissance et la discipline budgétaire.
Dans l'énergie, le ministère accélère le virage numérique, un volet considéré comme indispensable pour améliorer la performance du secteur.
Oui, le ministre de l'Énergie et des Énergies Renouvelables, Mourad Adjel, a présidé une réunion consacrée à la digitalisation de l'écosystème énergétique. Comptage intelligent, supervision à distance, centralisation des données et automatisation des réseaux. Cette transformation vise à réduire les pertes techniques, renforcer la transparence des flux et optimiser les coûts d'exploitation. À terme, la transition numérique permettra une meilleure allocation des ressources, un pilotage plus précis de la demande énergétique et une amélioration du service aux consommateurs.
Et à Oran, la filière halieutique boucle une semaine d'échanges professionnels avec la clôture du CIPA 2025.
Le salon a enregistré près de 20 000 visiteurs avec plusieurs conventions de partenariat qui ouvrent la voie à de nouveaux investissements, notamment dans l'aquaculture et la transformation. Les opérateurs mis sur la montée en gamme des produits, l'amélioration de la chaîne du froid et l'intégration logistique. La filière cherche à augmenter sa capacité d'exportation et diversifier les sources d'approvisionnement dans un contexte de demande croissante du marché local et international.
Et côté finances sociales, l'État active son dispositif de soutien aux ménages à faible revenu en vue du mois de Ramadan.
Et c'est le ministère qui ouvre les inscriptions, le ministère de l'Intérieur qui ouvre les inscriptions pour l'allocation de solidarité Ramadan 2026 jusqu'au 8 décembre. Au-delà du volet social, ce dispositif s'inscrit dans la stratégie de ciblage des aides via la numérisation des fichiers, ce qui permet de réduire les doublons et d'accélérer le versement. Les collectivités devront boucler le traitement des dossiers avant Ramadan afin de garantir l'injection de liquidités dans les ménages bénéficiaires et le soutien indirect à la consommation.
Et pour terminer à l'international, la première économie mondiale fait face à une tension inédite sur son transport aérien, même si une sortie du shutdown se dessine après un accord au Sénat.
Oui, le secrétaire d'État américain au transport alerte sur une réduction progressive des vols intérieurs en raison du blocage budgétaire et du manque de contrôleurs aériens. Les hubs aéroportuaires stratégiques commencent à limiter le trafic, ce qui perturbe les compagnies, le fret et la chaîne logistique. Cette contraction pourrait peser sur les coûts de transport, la distribution de marchandises et la productivité globale du secteur. Les économistes redoutent un ralentissement des échanges domestiques si la crise se prolonge. Toutefois, comme vous l'avez précisé, les sénateurs américains ont trouvé un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui dure, on le rappelle, depuis plus de 40 jours. Les élus républicains et démocrates se sont entendus pour un financement du gouvernement jusqu'en janvier. Le texte doit encore être approuvé par les députés avant d'être soumis au président américain Donald Trump pour signature.
C'était l'essentiel de l'actualité économique avec Nabila Hussein. On continue ce magazine en votre compagnie, en musique, avant de retrouver dans quelques instants l'Instant Santé. Top Loader, Dancing in the Moonlight.
We get it on most every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight.
Bienvenue dans le magazine. Si vous venez de nous rejoindre, place à l'Instant Santé.
L'Instant Santé avec Hassan Chemesh.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Et focus sur les investissements de l'Algérie pour améliorer la prise en charge des patients au CHU de Bab El Oued. Le service de réanimation répond aux normes internationales. Les détails avec Hassan Chemesh.
Professeur Aloudan, vous êtes la chef de service réanimation médicale au CHU de Bab El Oued.
Parfaitement.
Professeur, vous venez de me faire visiter le service. C'est un service aux normes, hein ?
Tout à fait, il est aux normes, effectivement. On travaille dans de bonnes conditions.
J'ai même vu que vous avez des chambres individuelles.
C'est un service, tout à fait, c'est la norme. C'est des chambres individuelles, ça permet de circonscrire, par exemple, quand il y a un malade qui est infecté, ça permet de localiser l'infection et de ne pas infecter tous les autres malades. Voilà, c'est un des grands avantages d'avoir des chambres individuelles pour les patients.
Professeur Alouda, donc ici au niveau du service réanimation médicale, vous prenez en charge les malades graves des autres spécialités.
Effectivement, c'est ça. Les patients de réanimation, ce sont des patients qui sont graves. Et généralement, on prend les malades graves des autres spécialités. Donc, ils font appel à nous dès que le patient présente des critères de réanimation, des malades lourds qui ne peuvent pas être pris en charge à leur niveau. Donc, on se déplace dans ces services-là, en plus de notre activité au sein du service même. Donc, on se déplace. Il y a des problèmes qu'on arrive à régler in situ, donc sur place. Par moment, c'est des malades qui nécessitent des ajustements, mais parfois, c'est des malades qui sont lourds, qui nécessitent réellement qu'on les transfère au niveau du service de réanimation. Après, il n'y a pas que les services médicaux. Nous prenons aussi les malades qui viennent, par exemple, des urgences, quand il n'y a pas de place au niveau des services des urgences. Et nous prenons aussi les malades qui nécessitent la réanimation, d'où qu'ils viennent à l'échelle nationale.
Donc, j'ai
aujourd'hui des malades, une malade qui est venue de Chleuf, j'ai une malade qui est venue d'Adrar récemment. Donc, d'où qu'ils viennent, s'il y a de la place aux réanimations, on les prend.
On peut pas refuser, c'est la réanimation.
On ne refuse pas des patients qui nécessitent. Dès qu'il y a de la place, on ne cherche pas à savoir d'où vient le patient, on est obligé de le prendre en réanimation.
Professeur Aloud, un lit de réanimation coûte cher.
Oui, effectivement, un lit de réanimation coûte cher. Parce qu'en réanimation, en fait, il y a beaucoup de gestes, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de consommables, et il y a beaucoup de charges de travail aussi pour le personnel médical, paramédical, les agents de propreté. Et ça explique un petit peu le fait que le lit de réanimation devient cher. Je pense que dans le privé, ça peut aller jusqu'à 100 000 dinars la nuitée dans le privé. Donc chez nous, ce n'est pas payant, mais ça explique un peu la cherté du lit de réanimation, de la prise en charge des patients en réanimation.
Parfait. Professeur Aloud, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les critères de recrutement de malades au niveau d'un service de réanimation ?
Comme on l'a dit précédemment, on hospitalise les malades graves des autres spécialités, bien sûr, à condition qu'il y ait un projet thérapeutique.
Voilà.
Donc on ne va pas prendre en réanimation les malades en veine de schiste, leur place, ce n'est pas la réanimation.
Oui.
Les malades, chaque spécialité doit gérer les malades en fin de vie. Le lit de réanimation, il est très très précieux. On prend des malades chez qui il y a des projets thérapeutiques, chez qui on doit faire quelque chose. Des malades qu'on doit tirer d'affaire, d'accord ? Voilà, c'est des malades graves de cardiologie, de pneumologie, de gastrologie, de toutes les spécialités, à condition encore qu'il y ait un projet thérapeutique chez ces patients-là.
On les sauve, professeur ?
Ah oui, bien sûr, c'est notre objectif quand on prend un patient en réanimation. Donc c'est un challenge pour nous. On doit le sauver, on part du principe qu'on doit tout donner pour le tirer d'affaire et le sauver.
Professeur, on intube et on extube.
Oui, il y a des patients qui nécessitent une intubation, qu'elle soit d'indication neurologique, respiratoire ou d'indication cardiologique. Les malades n'ont pas de choc. Et une fois qu'on a réglé tous les problèmes, bien sûr, il faut les extuber. On les extube, ces patients-là.
Quel effet ça vous fait d'extuber un malade ?
C'est toujours un challenge de prendre en charge ces malades. Et c'est une joie que je ne peux pas exprimer et que ressent toute l'équipe quand on tire un malade d'affaire et qu'on le remet à sa famille. C'est extraordinaire.
Professeur Aloudan, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
La suite en musique dans ce magazine avant de retrouver le reste de l'actualité.
When I feel big or small, I do it twice. For you I've been sold. You can stay and love you just like a woman. And love you just like a woman. And love you just like a woman. Troubled times and deeper stuff, I'll be your station where you can lay and love you just like a woman. And love you just like a woman. And love you just like a woman. And when I die, I come back.
À l'actualité, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans le magazine Place à l'actualité internationale.
Zoom sur le monde.
Retour sur la situation au Maroc, où les tensions sociales et politiques s'intensifient entre protestations populaires, violations des droits de l'homme et débats sur la normalisation avec Israël. Sofia Boukarcha a interrogé Mohamed El Batiwi, académicien et opposant, pour analyser ces dynamiques et leurs impacts sur le régime.
La situation sociale au Maroc se dégrade et semble plus en plus tendue avec un retour des manifestations dans différents secteurs, notamment la santé et l'éducation. Monsieur Mohamed El Batiwi, vous êtes académicien, docteur en sciences économiques et gestion et opposant marocain. Comment expliquez-vous ce regain de protestation?
Le cycle des contestations a repris, bien entendu, parce que rien n'a été réalisé. Donc, concernant les revendications ou la feuille de route qui a été mise sur la table par les générations Z, le régime n'a rien trouvé d'autre que de traîner les leaders de ce mouvement de génération Z vers les tribunaux, et on a eu le droit à des sentences à une vitesse record, et l'ensemble des condamnations totalise 260 années de prison pour une petite poignée d'activistes pacifistes. Alors, si on compte aujourd'hui, depuis le déclenchement des différents hiraks depuis 2017, donc le hirak du Rif, le hirak de Jrada et d'autres mouvements de contestation populaire depuis cette date-là, nous sommes à peu près à 1000 ans de prison. C'est énorme pour un régime qui prétend s'engager dans un processus de transition démocratique, d'un processus d'édification d'un État de droit et du respect des droits de l'homme. Mensonge, et encore mensonge, et toujours mensonge.
Dans quelle mesure les mouvements de contestation actuels risquent-ils de remettre en cause la stratégie d'image et de légitimation du régime marocain à travers les grands événements sportifs?
Ces contestations, bien sûr, y compromettent donc tous les projets de ravalement de façade du régime marocain, à savoir l'organisation de la Coupe d'Afrique du football, l'organisation de la Coupe du Monde qui consiste à construire des terrains plomb en neuf, estimés donc à une somme totale de près de 3 milliards de dollars dans un pays où encore les sinistrés des tremblements de terre du sud, ça veut dire du house, depuis 3 ans sont encore sous des tentes en plastique dans le froid. Je peux comprendre aujourd'hui que les contestations vont reprendre malgré la répression, malgré par moment l'utilisation des armes à feu. On sait très bien qu'il y a eu 5 assassinats. Puis il va y avoir des reprises cycliques pour rappeler à ce régime ses obligations et surtout pour faire tomber le masque de ce marzin.
Autre sujet, la situation des droits de l'homme au Maroc reste préoccupante, notamment pour les opposants et détenus sahraouis comme ceux de Gdeimizik. Le dernier rapport de l'ONU a d'ailleurs épinglé le Maroc sur ce point. Comment expliquez-vous la persistance de ces violations malgré les multiples dénonciations internationales?
Malheureusement, le calvaire des Sahraouis en matière des droits de l'homme ne va pas cesser. La nature de ce régime, elle est comme ça. Donc, c'est un régime répressif, despotique et dictatorial. Ça ne va pas changer demain, et pour le peuple marocain et aussi plus particulièrement pour le peuple sahraoui qui compte bon nombre de disparus, de prisonniers dans des prisons secrètes du marzen marocain et plus particulièrement dans les prisons de Gdeimizik. Et puis, il y a aussi beaucoup de disparus qui ont été emprisonnés et on a vraiment constaté leurs traces par d'autres prisonniers qui ont été libérés depuis dans les bandes de Tezmamart, dans les bandes de Qal'at Mgouna et dans les bandes de Agdez. Aujourd'hui, la répression continue à s'abattre sur le peuple sahraoui et elle ne va pas s'arrêter d'aussitôt. Le combat continue pour dénoncer ce marzen et surtout pour l'instauration d'un État démocratique au Maroc et permettre aux Sahraouis d'accéder à leur indépendance.
Autre sujet qui attire l'attention, celui de la normalisation et de l'influence sioniste dans le pays et dans les rouages du Marzen. L'Observatoire marocain de lutte contre la normalisation dénonce notamment la promotion de pseudo-alternatives religieuses. Quelle place occupe le sionisme dans l'histoire politique du Maroc?
Nous assistons vraiment à une visibilisation du sionisme. Le sionisme existe bel et bien au Maroc depuis la période du protectorat. Les sionistes ont participé à mettre sur pied les différents services secrets marocains. Le sionisme était aussi présent au moment où Hassan II a décidé de livrer et de vendre ses juifs pour $50 par tête de juif. Et les sionistes étaient bel et bien présents au sommet arabe de 1965 à Casablanca. La normalisation, tout simplement, rendait donc ces relations qui étaient discrètes et secrètes, plus ou moins visibles. Et le marzen marocain a envoyé 4000 soldats à Gaza pour assassiner et tuer aux côtés d'Itsaal les pauvres Palestiniens. Et en plus, ça piétine sur le budget marocain. Le Maroc, depuis la normalisation, a déboursé la modique somme de $5 milliards pour pouvoir se procurer 2 radars OFEC-2. et plein de drones. Donc c'est presque la moitié du budget consacré à l'éducation de 40 millions de Marocains.
Merci Monsieur Mohamed El Bateoui d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes académicien, docteur en sciences économiques et gestion et opposant marocain.
Zoom sur le monde.
On continue de vous accompagner avec de l'actualité et de la musique avec Djemaoui Africa.
فيت عليا يا لا 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 يومشي حمامة والقمري فيا
يا لا لا لا
يا منين الأصل يا الخمرية
يا لا 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 لا
مزيغية بين جزائرية أو بين الأصل سلالة فيك
سين
والحشمة في دبانت عيني
قلت
همة والمشية تواتي
تاوي
عليا بالخيل نجي
لا لا ويا لا لا
أمين جاد الزين فيت عليا
يا لا 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 لا
يا والمشية حمامة والقمري فيا منين هاد البنية
يا لا 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 لا
في مدينة ساكنة ولا بدوية
يا لا لا لا
مقامها في العلالي ولا الوطايا
يا لا 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 لا
يوم هرسو غالي دافعونا يا تكتب عليالي ونزيد نهار
لا لا
أصلا تجيبك للدار
رايطة
وبارود من الجار للجار فرحة فيك انت يوم ليها عبار
لا لا ويا لا لا
ومنين جهد الزين فيت عليا
يا لا 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 لا
يا والمشي حمامة والقمري فيا
I'm
not
your man.
Et la suite du magazine, toujours en votre compagnie, avec en deuxième partie la rubrique TIC et médias. Reda Menassel nous parlera d'énergie et de mobilité en 2026. Et nous ferons également l'actualité culturelle avec Sidali Fares et la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel. C'est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et ça se passe du 9 au 15 novembre. Pour mettre en valeur la richesse de l'artisanat algérien. Et nous retrouverons Abdelhamid Zoued, notre correspondant du jour, à partir de Djidjel. Tout ça, c'est dans le magazine et c'est jusqu'à 19h.
Algéchin 3. Algéchin 3. 24h sur 24.
24h sur 24.
La suite du magazine avec le point infotrafic.
L'inforoute.
Et vous pouvez nous contacter au 021 48 15 15 pour partager en direct l'état de la circulation à travers toutes les wilayas.
و
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب
C'est une très très belle chanson pour vous accompagner. On se retrouvera dans quelques instants pour la deuxième partie du magazine. Il y aura de l'actualité sportive avec Rostom Yahya Chlif, suivi de la rubrique TIC et Média avec Reda Menassel. Et bien sûr, on retrouvera Sid Ali Fares pour l'actualité culture.
Fire gun, we need somebody to lean on. Blood kiss, fire gun, we need somebody to lean on. Blood kiss, fire gun, we need somebody to lean on.
est 18h sur Alger 3. On retrouve tout de suite Sofiane Saouli pour le sommaire. Sofiane, bonsoir.
Leïla Djiboul, bonsoir. Bonsoir à tous. Au sommaire, le président de la Fédération d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a demandé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'accomplir un geste humanitaire en graciant l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis un an, a indiqué aujourd'hui un communiqué de la présidence de la République. Coopération algéro-somalienne, le président de la Fédération de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, est à Alger en visite officielle, visite pour renforcer les relations bilatérales conformément à la volonté des dirigeants des deux pays. C'est le deuxième jour de débat sur le projet de loi de finances 2026 à l'Assemblée populaire nationale. Les députés ont axé leurs interventions sur le contenu du développement local et les priorités exprimées par les représentants de plusieurs wilayas. Lancement de la campagne nationale de dépistage du cancer de la prostate, premier cancer touchant les hommes en Algérie. Le ministre de la Santé l'a lancé depuis Blida. Au Maroc, les secteurs de la santé, de l'éducation en ébullition. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui. Les Marocains dénoncent la persistance ou l'insistance du gouvernement dans sa politique, rejetant tout dialogue et revendication des catégories socioprofessionnelles. Au Proche-Orient, les émissaires américains ont évoqué aujourd'hui, avec l'occupation sioniste, la deuxième étape de l'application de l'accord de cessez-le-feu. Au salon de l'artisanat, les artisans de toutes les régions du pays montrent leur savoir-faire et ingéniosité pour trouver les matières premières. Sid Ali Fels les a rencontrés. Et puis on évoquera en sport football Chebi qui déclare forfait pour les deux matchs amicaux de l'équipe nationale contre le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. Et tout de suite, la météo, c'est avec vous, Leïla Djiboul.
Bonsoir à tous. La météo pour cette nuit sur les régions du nord, littoral intérieur et les hauts plateaux ainsi que les Aurès. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé dans l'ensemble. Quelques passages nuageux sont attendus sur l'est du pays avec des brumes locales près des côtes en fin de nuit. Les vents souffleront d'ouest entre 15 et 30 km/h. Dans les régions sahariennes, le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé sur le Sahara central et le nord du Sahara oriental. Les vents pourront atteindre 40 km/h. Avec des soulèvements de sable par endroits. Ailleurs, les vents seront plus calmes de secteur sud autour de 15 à 30 km/h. Les températures pour ce soir, il fera 4 degrés à Batna, 9 degrés à Alger et à Chlef, 10 degrés à Béjaïa, 9 degrés à Annaba, 7 degrés à Tizi Ouzou, 5 degrés à Constantine, 17 degrés à Ain Salah, 21 degrés à Ain Ghazem, 14 degrés à Djanet et 20 degrés à Bordj Bedji Mokhtar. Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine pour vous accompagner jusqu'à 19h avec de la musique. Tout de suite, Bonnet M. La deuxième partie du magazine avec l'actualité sportive pour commencer en compagnie de Rostom Yahya Chérif. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Très bien, merci. Et on entame cette page sport avec du football et Fels Chaibi qui déclare forfait pour les deux matchs amicaux de la sélection nationale.
Oui, Fels Chaibi qui ça vient de tomber, hein, le milieu de terrain. Fels Chaibi est forfait pour les deux rencontres de la sélection nationale face au Zimbabwe le 13 novembre et puis l'Arabie Saoudite le 18 novembre. Le joueur de l'Eintracht Francfort souffre d'une blessure musculaire à la cuisse contractée hier lors du match remporté par son équipe face à Mayence 1-0 en championnat. Et je rappelle que la sélection nationale est arrivée hier soir à Jeddah où elle disputera deux rencontres amicales face au Zimbabwe le 13 novembre puis l'Arabie Saoudite le 18 novembre. Ça sera à partir de 17h30. Seule une partie du groupe a effectué ce déplacement. Il s'agit des joueurs ayant évolué vendredi et samedi avec leur club. Le reste de l'effectif est attendu aujourd'hui. D'ailleurs, une séance, la première séance d'entraînement de la sélection nationale en Arabie Saoudite se déroule en ce moment. Le vol spécial affrété pour l'occasion avait atterri hier à l'aéroport international de Jeddah aux alentours de 22h20 où les coéquipiers de Ilan Kbel ont rejoint leur hôtel pour récupérer du voyage. Je rappelle que avec le forfait de Fels Chaibi, c'est le deuxième forfait après celui de Rami Ben Sebaini qui ne pourra pas prendre part aux deux rencontres amicales souffrant de douleurs au lombaire. Et puis il y a eu aujourd'hui la blessure de l'international algérien de l'Espérance de Tunis et Youssef Bleili, blessure au niveau des ligaments croisés du genou. Il sera opéré dans les prochains jours. Et puis il y a également la sélection nationale des A' qui s'est envolée aujourd'hui, cet après-midi pour le Caire en vue de la double confrontation amicale face à l'Égypte les 14 et 17 novembre dans le cadre de la préparation de la Coupe arabe 2025 qui est prévue du 1er au 18 décembre au Qatar. Le coach national Majid Bouguerra avait retenu 27 joueurs dont le meilleur buteur en activité de l'équipe nationale A, Islam Slimani, qui évolue dans le club Cluj en Roumanie et le meneur de jeu de la JS Kabylie, Riyad Boudbouz. Ce dernier, âgé de 35 ans, signe son retour en sélection après 7 ans d'absence. Le premier rendez-vous du champion arabe en titre, ça sera face aux Pharaons, les locaux des Pharaons, ce vendredi au stade El Salem au Caire à 14h, alors que le second test aura lieu lundi prochain au même stade. Ça sera à partir de 16h. La sélection nationale qui est détentrice du trophée arabe est qualifiée directement pour la phase finale de la prochaine Coupe arabe 2025.
Et on reste avec le football, déroulement demain de la 10e journée du championnat national de Ligue 2.
Avec les deux groupes centre-est et centre-ouest, ça sera à partir de 14h. On va commencer par le groupe centre-est où le leader, l'US Biskra, accueillera la formation de l'USM Annaba. Biskra qui est leader avec 21 points, alors que Annaba 5e avec 16 points, conjointement avec le MOB de Béjaïa qui accueillera le NRB Tlarma. Le dauphin de l'US Biskra, le Cap de Batnaoui accueillera le Najm de Magra, alors que l'US Chouaouia sera en déplacement face au Chebab Riadi de Benetol. Le Mok de Constantine, sans entraîneur, accueillera la JS Borj Menael, JS Dijel NRB Beni Wilben, Itihad Khmis El Khashna AS Khroub. Il y aura également le Mouloudia de Batna qui sera en déplacement face au Hilal Beledit Chelroum Leid. Ça, c'est pour le groupe centre-est. Le programme du groupe centre-ouest, toujours pour le compte de cette 10e journée, également à 14h. Le leader du groupe Chebab Riadi de Temouchent. Et ça sera le choc de cette 10e journée dans le groupe centre-ouest. Le leader, le CR Temouchent, qui accueillera son dauphin, la jeunesse sportive d'El Biar, où un point seulement sépare les deux équipes. Temouchent avec 20 points, El Biar avec 19 points. Conjointement à la deuxième place avec El Biar, on retrouve l'Azm Doran qui sera en déplacement face au rallye de Mascara, qui est 14e en position de relégable avec 4 points seulement avec l'US Bouchajdid et le RC. De son côté, le RC Kouba accueillera le Nahd du Sindé. Ça sera le derby algérois et le Wydad de Mostaganem face à la JS Tirsaïn. Le Chebab Riadi Beledit Adara affrontera le Wydad de Tlemcen et le Mouloudia de Saïda face à la JSM Tiaret, alors que Béchar Jdid accueillera le SM Kolea.
Et on passe au jeu de la solidarité islamique. deux nouvelles médailles pour l'Algérie, Rostom.
Et une troisième qui vient de tomber. Ça concerne la natation. Une médaille d'argent d'abord pour Djawed Sioud dans l'épreuve du 200 mètres brasse avec un chrono de 2 minutes 16 secondes 66 centièmes. En finale du 200 mètres papillon chez les dames, Imen Kauta Zitoun a décroché la médaille de bronze avec un chrono de 2 minutes 22 secondes et 90 centièmes et termine donc à la troisième place de cette course, de cette finale du 200 mètres papillon. Par contre, il y a eu plusieurs déceptions. Finale du 100 mètres brasse, le sixième place pour Abdallah Aoudjoun avec un chrono de 56 secondes 93 centièmes. Chez les dames, la finale du 200 mètres brasse, quatrième place pour Dunia Shahaz avec 2 minutes 40 secondes et 16 centièmes et une huitième place pour Melissa Touami avec 2 minutes 53 secondes et 89 centièmes. En finale du 200 mètres papillon, messieurs, Fares Benzidoun a terminé à la cinquième place avec 2 minutes 4 secondes et 48 centièmes et une septième place pour Mohamed Hamoul en 2 minutes 06 secondes 52 centièmes. Élimination de Nazim Benbara et Redouane Bouali en demi-finale du 100 mètres nage libre et ça vient de se terminer pour la finale du 4 x 100 mètres 4 nage mixte, quatrième place pour la sélection nationale. La troisième médaille de bronze de la journée, troisième médaille, elle est en bronze plutôt, c'est en tennis de table, médaille de bronze pour la sélection nationale messieurs par équipe en s'inclinant en demi-finale 8 à 5 face à l'Iran. Pour le moment, on a un bilan de 9 médailles pour la sélection pour l'Algérie avec une seule médaille d'or, c'était en natation avec Djawed Sioud, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze.
Et en handball avec on continue avec la on va parler de la sélection messieurs qui connaîtra vendredi ses adversaires lors de la prochaine CAN.
Oui, le tirage au sort de la 27e édition du championnat d'Afrique des nations de handball se tiendra vendredi 14 novembre à partir de 14h heure algérienne à Kigali au Rwanda, pays hôte de la compétition. Cette cérémonie officielle marquera une étape importante dans la préparation de cette édition prévue du 21 au 31 janvier 2026 et qui réunira les meilleures sélections du continent. Les équipes qualifiées ont été réparties en 5 niveaux sur la base du classement continental. L'Algérie, vice-championne d'Afrique, a été placée dans le premier chapeau avec l'Égypte tenant du titre et la Tunisie. Les autres chapeaux sont composés du Cap-Vert et de la Guinée dans le chapeau 2, l'Angola, le Cameroun et le Gabon dans le chapeau 3, Rwanda, Bénin, Kenya dans le chapeau 4 et enfin la Zambie avec l'Ouganda dans le chapeau 5. Le championnat d'Afrique des Nations 2026 servira également de tournoi qualificatif pour le championnat du monde 2027 prévu en Allemagne du 13 au 31 janvier. Un objectif pour les Verts, décidés à retrouver leur rang parmi les grandes nations du handball africain. Je rappelle que la sélection algérienne avait atteint lors de la précédente CAN en 2024 la finale lors du dernier championnat d'Afrique. C'était au Caire en s'inclinant face à l'Égypte sur le score de 29 à 21.
On termine avec du basket et les principaux résultats de la NBA.
Les champions en titre, les Oklahoma City Thunder, se sont imposés en déplacement face aux Memphis Grizzlies 114 à 100, alors que les Golden State Warriors ont battu à domicile les Pacers d'Indiana, finalistes de la précédente édition, 114 à 83. Les Timberwolves de Minnesota ont battu les Sacramento Kings 144 à 117, alors que les Celtics de Boston se sont imposés face aux Orlando Magic 111 à 107. Les Knicks de New York ont battu les Brooklyn Nets 134 à 98 et les Rockets de Houston se sont imposés face aux Bucks de Milwaukee 122 à 115. Le programme de cette nuit à 1h du matin, les Charlotte Hornets accueilleront les Lakers de Los Angeles, Miami Heat, Cleveland Cavaliers. Ça c'est une belle affiche à regarder à partir de 1h30. Chicago Bulls, San Antonio Spurs à 2h du matin et puis Phoenix Suns, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, ça sera à 3h avec Utah Jazz et les Minnesota Timberwolves. Et puis on va terminer avec du tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz est devenu numéro 1 mondial aujourd'hui au lendemain du début du Masters de fin d'année qui se déroule en ce moment à Turin, qui déterminera qui de l'Espagnol Carlos Alcaraz ou de l'Italien Yannick Sinner qui terminera l'année au sommet de la hiérarchie ATP.
C'était l'essentiel de l'actualité sportive avec vous, Rostom Yahya Chérif, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'édition de 19h avec Sofiane Saouli. Nous, on continue ce magazine en musique. Symphonie de Verve, de la musique pour vous accompagner et de l'actualité. On retrouve tout de suite le correspondant du jour dans le magazine.
Le correspondant du jour.
Direction Jijel avec Abdelhamid Zoued pour suivre la cueillette des olives et l'arrivée simultanée des prédateurs, notamment les étourneaux.
Avec la saison de la cueillette des olives, d'étranges oiseaux s'invitent à Jijel en trouble fête aux grandes dames des oléiculteurs. Ce sont les étourneaux, des oiseaux migrateurs qui ont un penchant prononcé pour les olives. Chaque année, à pareille époque, celle de la traditionnelle cueillette des olives, ils sont là, voltigeant dans le ciel de la corniche jijelienne où la saison oléicole vient de commencer. Des premiers sujets arrivés en éclaireur ont été vus à Jijel, ville et dans les environs. Ce volatile migrateur est réputé pour être un fléau pour les oliviers desquels de nombreux ménages tirent leurs revenus. L'olive, arrivée à maturité au mois de novembre, est une friandise très appréciée par cet oiseau vorace. Chaque individu consomme en moyenne 2 à 3 olives par jour et par ricochet en fait tomber plusieurs autres. Toufir Bakha, président de la chambre d'agriculture de la wilaya de Jijel.
Le merle étourneau, souvent considéré comme un simple consommateur de fruits, joue un rôle écologique important dans la nature. En se nourrissant des olives mûres, il contribue à la disparition des grains d'olivier. Les noyaux, avec les déjections de l'oiseau tombant, favorisent la naissance de nouveaux plants d'olives. Ainsi, même un petit oiseau comme l'étourneau participe à sa manière à la préservation et à la régénération de notre patrimoine végétal.
Et eu égard aux interminables balais d'étourneaux dans le ciel, on imagine l'importance du manque à gagner en matière d'olives, surtout du point de vue quantitatif. Bon an, mal an, cette production est évaluée à 5 millions de litres d'huile d'olive d'excellente qualité, même objectif aussi pour cette année. Pour faire face à ce fléau, une lutte biologique, chimique et mécanique est nécessaire à entreprendre par les oléiculteurs eux-mêmes dans cette région qui totalise quelques 17 000 hectares de vergers oléicoles. Ne se contentant pas de leur bruit en tournoyant dans un balai à géométrie variable, ces volatiles noirs rejettent leurs déjections acides, nocives, aussi bien pour les espèces végétales que pour les carrosseries automobiles dont ils accélèrent la corrosion. Ces oiseaux nichent dans des arbres qui font office de dortoir. Des moyens de lutte comme les effaroucheurs, qui sont des appareils sonores simulant les cris de rapaces, des filets de capture ou encore des tirs d'explosifs sont des procédés efficaces à même de protéger les oliveraies et réduire les dégâts. Djigel Abdelhamid Zouad, Alger-Chan 3.
C'était le correspondant du jour. On continue de vous accompagner en musique. Avec une très belle chanson de Tech Fellinas.
دوني قارب فهم فيشكي سدون تلعوهم تعدين ذو السن ولساعي بينقسن ثنقسي دوني الصغفة للوقف يتحيري ذي العمر وعشرين مزوني ظلي دوني الصغفة للوقف يتحيري ذي العمر وعشرين مزوني ظلي عدن 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 والسن يظل كان ايه يظل كان الذي قردان مش في غنحار انا مورس العجلان نقبض المصين نوسان نغفسان هاي اشحال صيدي ثور نوكي ميعدان يوغل نسوج نفرح نسعادي قردان يتفدي للقوم يفوث اغزمان يوغل نسوج نفرح نسعادي قردان يتفدي للقوم عدن 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 والسن يظل كان يحمل غدم كثير وسنني يصرد فغض كثير سيف ثان تبوي يضكم الذي يمدوك لي وانت مسقي الكاس يتضوير في البحير انتيري منذ دربك لحشيش ذاندي سيل خش وعالفن سيل خش وعالفن لما نتوالي تشتحق بزير أسمي ساي 25 ذي العمر إن مضارق زيق ذي الحبابي خاسي زقان زقان فلان الجيوبي عند حمايد افضي انت يشو ايد الزينة في الميداي ما ولاني بابا ذي ما غيدنا وندي الصلاحي زي غينا قدنا نحوز عند الزماني ميتني دمك تغدو راي ساح يصريو عدن عدن
Bienvenue dans la deuxième partie du magazine. Si vous venez de nous rejoindre, on passe tout de suite à l'actualité culturelle.
Mmh.
L'événement de la semaine avec le plus grand salon, voilà, la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel. C'est du 9 au 15 novembre, une édition pour découvrir et promouvoir, ainsi que célébrer l'artisanat traditionnel algérien dans toute sa diversité. Et c'est au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Les détails avec Sidali Fels.
Les produits de l'artisanat traditionnel qui font la renommée de la wilaya d'El Rouat, menuiserie artistique, la peinture par sable, le traitement de la laine et la fabrication des instruments de musique. Sans oublier la couture de vêtements traditionnels. Madame Omar Mariam, modéliste styliste de El Rouat.
J'ai apporté la ch'tata. C'est un mensouj que la femme magouatie le tissait avec de la soie et du fil du coton. On a les traditionnels et on a la broderie. À la main.
Les artisans tunisiens sont connus pour leur habileté dans l'artisanal comme poterie, tapisserie, maroquinerie et sculpture sur bois. Madame Fatma Djamil de Tunisie.
Notre stand, c'est bois de levier et résine époxy. On a des planches avec des différentes dimensions, les cuillères, les spatules, les planches avec résine, les soutasses, les porte-cuillères.
Le Palais de la Culture Moufdi Zakaria ouvre ses portes à la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel.
C'était le reportage culturel de Sidali Fels. On continue en musique avec Freak Lane, El Huria. De la musique pour vous accompagner et de l'actualité dans le magazine. Et tout de suite, place à la rubrique TIC et médias. Reda Menassel s'intéresse à l'énergie et à la mobilité. En 2026, la recherche mondiale mise sur la batterie à l'électrolyte solide, promise pour révolutionner la voiture électrique.
On en parle comme de la prochaine grande rupture technologique. Il s'agit de la batterie solide. Contrairement aux batteries lithium actuelles qui utilisent une électrolyte liquide, inflammable, les nouvelles générations remplacent ce liquide par un matériau céramique ou polymère solide. Résultat, elles sont plus stables, plus sûres et peuvent stocker bien plus d'énergie à volume égal. Au Japon, par exemple, Toyota prévoit déjà une première production commerciale avant 2028. Aux États-Unis, QuantumScape ou encore Solid Power testent des prototypes capables d'offrir 800 km d'autonomie avec une recharge de 10 minutes. C'est considérable. Mais les défis restent encore nombreux. Coût de production, fragilité des matériaux et surtout recyclage complexe. Pour l'automobile, l'enjeu dépasse la simple performance. Une batterie plus sûre, c'est aussi moins de risques d'incendie, moins de pertes énergétiques et une durée de vie rallongée. À terme, ces technologies pourraient même servir dans les avions hybrides ou les systèmes de stockage domestique pour les énergies renouvelables. La course à la batterie solide résume bien l'époque. Un mélange de promesses technologiques et de contraintes industrielles, c'est une condition sine qua non pour rendre cette transition énergétique réellement durable et viable. À très vite.
C'était la rubrique TIC et Média avec Reda Menassel. Place tout de suite à la musique avec le groupe Roosevelt Ordinary Love.
Yeah.
Alger-Chin 3. Alger-Chin 3. 24 heures sur 24.
24 heures sur 24.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. We've come too far. To get lucky, we're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no limit. Keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far. The sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
Lucky Daft Punk dans le magazine et on continue de vous accompagner jusqu'à 19h avec de la musique. Tout de suite, Don't Stop the Dance.
We'll be right back.
Et c'est sur ces belles notes que le magazine se termine pour aujourd'hui. On reviendra demain avec d'autres actualités pour vous accompagner jusqu'à 19h. Merci à Ali Lahuissi d'avoir réalisé cette émission. Et quant à moi, je vous dis à demain, même heure, même station.
You can't always get It's just my fight. It's just